Voilà, j'invite ce matin à lire deux courts passages dans l'Épître aux Corinthiens. D'abord dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Donc 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous dites la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture, oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et deuxième passage, juste après en 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'édifie pas. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Je pense qu'on devinera facilement le thème de mon message, hein. C'est « Tout est permis ». Jésus, en Jean chapitre 8, nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». En disant ça, il souligne qu'il y a peut-être des fausses libertés, puisqu'il dit « vous serez réellement libre ». Des libertés que nous croyons avoir et qui en réalité nous ramènent à l'esclavage. Et Paul dit quelque chose de similaire en Galates au chapitre 5, une phrase qui est presque surprenante, il dit « c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». On pourrait se demander « pourquoi nous libérer si ce n'est pas pour être libre ?» Mais en tout cas, voilà, cette phrase surprenante, « c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». On connaît l'importance de la question de la liberté en Christ pour l'apôtre Paul, notamment la liberté par rapport à la loi. Il écrit une lettre très dure aux Galates, dont certains veulent imposer de nouveau aux autres d'être circoncis ou de suivre certaines lois. Et on sent dans cette lettre que Paul, à aucun moment, n'est prêt à négocier. À Corinthe, Paul se heurte à la difficulté inverse. Certains utilisent cette liberté pour se permettre des dérives, des délires. Certains fréquentent des prostituées, notamment dans les temples païens. Il y en a un qui couche avec sa belle-mère. Certains méprisent ceux qui n'ont pas la même condition qu'eux, font la fête pendant que les esclaves travaillent encore. Lorsque les esclaves arrivent, les autres sont déjà sous. D'autres ne tiennent pas compte de la fragilité de ceux qui sont autour d'eux, mangent la viande sacrifiée aux idoles, même si ça peut déstabiliser la foi des autres. Et pourtant, malgré toutes ces dérives, Paul se refuse à mettre en question cette affirmation. Par deux fois, il aborde le sujet « tout est permis ». Certains pensent que c'est... Il répond en fait à ce que les Corinthiens diraient dans leur lettre. Hein, eux-mêmes, vous dites que tout est permis ou tu nous as dit un jour que tout est permis. Mais à aucun moment, Paul ne dit « vous m'avez mal compris ». Je ne voulais pas dire que vraiment tout est permis. Je voulais juste dire qu'il y a un peu moins d'interdits ou qu'il fallait plus se faire circoncire ou qu'on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Mais bien sûr, la loi reste en vigueur et Dieu nous jugera par elle. Non, malgré toutes les dérives qu'il y a à Corinthe, et comme je l'ai dit, Corinthe c'est quand même une église assez dysfonctionnelle, Paul maintient, tout est permis, tout m'est permis. Trop souvent, dans les milieux chrétiens, lorsqu'on sent un petit danger quelque part, on interdit. Sans doute une attitude normale lorsqu'on a des enfants, mais lorsqu'on agit de la même manière envers des adultes, on les infantilise quelque part. C'est Coluche qui parlait un jour une fois du drapeau suisse, il disait le drapeau suisse, c'est deux sens interdits l'un sur l'autre. Et parfois, nos Bibles évangéliques, on a parfois l'impression que sur la couverture, il y a comme ça un autocollant sens interdit. En tout cas, c'est comme ça que des fois, les jeunes voient la Bible ou la vie chrétienne quand on leur propose un immense sens interdit. Et pourquoi alors on n'a pas le droit de fumer? Et pourquoi on n'a pas le droit de danser? Et pourquoi on n'a pas le droit de s'amuser? Pourquoi en fait, dès que c'est sympa, on peut deviner à l'avance que l'Église va dire on n'a pas le droit? J'ai une de mes filles qui est donc convertie, baptisée, et à 19 ans, elle s'était fixé l'objectif de lire la Bible en un an. Donc chrétienne, sérieuse, engagée, etc. Et un jour, elle m'appelle. Elle dit, voilà, je suis arrivé à Ézéchiel, chapitre 16. Donc elle a quand même déjà traversé quelques passages difficiles. Hein. Elle avait lu les chroniques, elle a vu tout ça. Et elle m'appelle, elle dit, mais voilà, dans Ézéchiel, chapitre 16, on voit Dieu qui met un anneau au nez de son épouse Israël pour la rendre belle. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les anneaux, pourquoi est-ce qu'on dit que les piercings c'est interdit? Pourquoi mettre un piercing c'est un péché si Dieu lui-même le fait et met un piercing à son épouse? Pourquoi des fois c'est peut-être dangereux peut-être de mettre la Bible dans les mains de n'importe qui? Qu'on prenne tout de travers? Ou peut-être pas justement, peut-être qu'elle se posait la bonne question. Et je me souviens d'un pasteur qui me disait, en parlant du ministère féminin, c'est vrai que sans doute on interdit un peu trop de choses aux femmes. Mais comme de toute façon, les gens ont toujours tendance un peu à transgresser, il vaut mieux trop interdire, comme ça même, si elles désobéissent, elles ne désobéissent pas encore à la parole. Pour certains, c'est vrai, hein, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Pas mélodite, hein, je vous rassure, jamais un pasteur vient de dire ça. Mais pour certains chrétiens, voilà, il faut parfois trop interdire que le prendre le risque de pas assez interdire. Et Paul ne raisonne pas comme ça. Malgré les dangers, malgré les dérives, il maintient l'affirmation « Tout est permis, tout m'est permis ». Et Paul va plus loin. Il dit que vouloir protéger les chrétiens des péchés en leur mettant des interdits, c'est les faire chuter. C'est obtenir exactement l'opposé de ce qu'on cherche à faire. Il le dit en Romains 7, il commence en disant « La loi est-elle péché ? » Non, jamais d'avis. Mais il continue. Mais j'ai connu le péché par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais s'il n'y avait pas le commandement de la loi. Tu n'auras pas de désirs mauvais. Et le péché a profité de l'occasion et il s'est servi du commandement pour produire en moi toutes sortes de désirs mauvais. Le péché, c'est une chose morte s'il n'y a pas la loi. C'est pourquoi le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Oui, le péché a profité de l'occasion, il s'est servi du commandement pour me tromper et ainsi il m'a fait mourir. Voilà donc ce que dit Paul en Romains 7. Je ne sais pas si c'est français courant que j'avais cité ou paroles de vie, mais voilà. L'idée, quelque part, la loi, le péché en profite pour l'utiliser et me faire pécher. Pour Paul, en ramenant les chrétiens sous la loi et sous les interdits, nous les amenons à pécher, parce que l'interdit produit le désir mauvais qui m'amène à pécher. Et Paul utilise la méthode contraire, comme vient de dire, sans la loi, le péché est sans vie. Donc Paul ne met pas d'un côté le respect de la loi et de l'autre côté le péché, mais il met les deux du même côté et de l'autre il met la marche par l'esprit. Alors ça peut surprendre, mais on peut écouter encore ce que Paul dit à Timothée. Il faut savoir avant tout que la loi n'est pas faite pour les honnêtes gens. Le juste, le croyant, n'est pas régi par elle. Elle a été instituée pour ceux qui n'en veulent pas, pour les hommes sans foi ni loi, vivant sans règles ni fin, pour les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs. Et Paul semble même plutôt heureux de s'être débarrassé de la loi. Maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, le Christ ne vous servira à rien. À nouveau, c'est en Romains, chapitre 7, qu'on peut le mieux comprendre cette logique. Et on peut écouter comment Paul met d'un côté la loi et le péché, et de l'autre côté, une réalité nouvelle. Quand nous vivons sous l'emprise de la chair, les désirs mauvais excités par la loi agissaient en tout notre être et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Alors c'est un mystère quelque part, savoir que nous sommes libérés de tout interdit, que nous sommes sous le régime de l'Esprit, nous amènera à plus de victoire sur le péché dans la vie des chrétiens, que les interdits que nous plaçons, que d'autres placent parfois dans nos vies. Et Romains 6 dit ceci, « Le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Certes non. Bon, verset un peu difficile, je vous lis la traduction dans Parole de vie qui rend ça de manière intéressante. « Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais la grâce de Dieu pour vous. » Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais la grâce de Dieu pour vous. Alors est-ce une raison pour faire le mal ? Sûrement pas. En face du chrétien qui lutte contre des interdits et pour respecter la loi, et qui pêche, et même qui trop souvent abandonne même la lutte contre le péché, Paul met un régime nouveau, une réalité nouvelle, la vie par l'esprit, ce qu'il appelle en Galates 5 le chrétien spirituel. Alfred Kuhn, dans Parole vivante, rend plusieurs passages comme ça de Romains et d'ailleurs d'une façon assez riche, je vous les lis. « À présent, nous possédons une réalité nouvelle. Nous sommes libres de servir Dieu. » Je vais y revenir après. « Nous sommes libres de servir Dieu avec les forces que nous donne l'Esprit de Christ en nous. » L'Esprit joue donc un rôle dominant dans la vie du croyant. Nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. L'Esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte, il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu, a fait de vous des fils adoptifs de Dieu. En lui procurant la paix intérieure, l'Esprit libère l'homme du souci de gagner le ciel, du sentiment d'incapacité à atteindre finalement cette finalité par ses propres forces. Et il dit encore, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc l'idée vraiment d'esprit et de liberté vont vraiment ensemble, qui l'oppose à l'esprit de loi et de péché, qui vont aussi ensemble. En marchant par l'Esprit, nous arrivons enfin à vivre ce que nous n'arrivons pas à vivre lorsque nous marchons par les interdits et par la loi. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, etc. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont été crucifiés à la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Alors, peut-être que certains s'impatientent. J'ai cité plusieurs fois Paul qui dit « Tout est permis, tout m'est permis », mais il n'a jamais fini sa phrase. Et la phrase, c'est vrai, ne s'arrête pas là. Il y a en Corinthiens 6, il y a en Corinthiens 10, chaque fois il continue par un « mais ». Tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais je ne deviendrai l'esclave de rien, mais tout n'édifie pas. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, parle de sa vie plusieurs fois, parle de ses choix, la manière même dont il fait ses choix, et des fois pour des questions tout pratiques. Et on peut regarder comment Paul raisonne déjà sur les questions pratiques pour lui-même. Il ne prend pas comme un droit ce que le bon sens ou ce que la société permettrait. Même il dit oui, je pourrais être accompagné par une épouse. Certains le font, hein, Pierre apparemment le faisait, il y a des épouses qui les accompagnent. Il dit oui, je pourrais vivre de mon enseignement. Et qui pourrait le reprocher ? Lui-même dit, tout ouvrier mérite un salaire. Mais Paul ne réfléchit pas avec l'idée, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Il a un autre critère que de, j'ai le droit, tout m'est permis. Il choisit plutôt d'être par l'esprit, il choisit le bien, il choisit le projet de Dieu pour lui. Et en toute logique, c'est pour ça qu'on est venu à Dieu. Pour changer de vie, pour être débarrassé de notre ancienne manière de vivre, pour plaire à Dieu. Et c'est ça le moteur de Paul. Et c'est ça qui, comme moteur qu'il propose, comme dynamique pour notre vie chrétienne. Non pas des interdits, non pas la loi, la peur du jugement, mais le plaisir d'essayer de vivre ce que nous aimerions être devant Dieu. Alors quelque part, on peut dire que la loi reste un guide pour nous faire comprendre ce qui est bien, et plus encore, le modèle de Jésus est pour nous le guide, ou les conseils de Paul. Mais ce n'est pas la loi comme un interdit, mais plutôt comprendre qu'est-ce qui est bon, parce qu'on a envie justement de le faire. Et on a besoin, c'est vrai, de guides écrits, parce que sinon on reste dans le subjectif, hein, ce que j'ai l'impression que l'esprit aimerait que je fasse. Mais en aucune manière, on fonctionne par peur des interdits. Et c'est là où le défi pour la vie chrétienne est exigeant. Rien n'oblige l'apôtre Paul, et lui n'oblige non plus les Corinthiens à rien. Il leur dit oui, tout est permis. Mais en même temps, il leur dit, cette façon-là de réfléchir ne m'intéresse plus. C'est vrai que Dieu ne contraint pas. C'est vrai que la grâce est un cadeau. Elle ne demande rien en retour si c'est une foi sincère et repentante. Dieu ne contraint pas. C'est le péché qui contraint. Et lorsque nous sommes sous le péché, nous n'avons pas le choix. Mais Paul lui refuse, j'ai le droit d'eux, qui le rendraient esclave de quoi que ce soit. Je me laisserai asservir par rien. L'esclavage du péché est un esclavage subi. Être l'esclave de Dieu, c'est un service que nous choisissons. Et paradoxalement, c'est un service qui libère. Marcher en nouveauté de vie, c'est une grâce. Faire ce qui est juste n'est pas une obligation, c'est une grâce. Dieu m'offre une belle opportunité de faire ce qui est juste. Et Paul ira jusqu'à dire, « Bien que je sois un homme libre à tous égards, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus possible de gens à Jésus-Christ. » Paul sait qu'il est libre à l'égard de tout. Il nous rappelle en même temps ce principe, « Mes frères, vous avez été à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et l'apôtre Pierre dit également, « Soyez des hommes libres, mais sans faire de cette liberté un voile pour couvrir la malfaisance. » Si le désir du chrétien est de profiter de cette liberté pour aller consciemment vers le péché, la question c'est, est-ce qu'il aime réellement Dieu? Est-ce qu'il a vraiment été transformé par l'Esprit? Il y a là comme une contradiction profonde entre ce que nous semblons dire en apparence, je veux aimer Dieu, et la manière dont on agit en réalité. Tant que je raisonne pourquoi je n'ai pas le droit d'eux, je n'ai pas compris le projet de bonheur que Dieu propose. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait plus de lutte dans nos vies. Ça ne signifie pas qu'on ne va plus pécher. Paul en Romains 7 parle de ces luttes. Mais il ne parle jamais d'une lutte entre un bien et un mal qu'il a envie de faire. Il parle d'une lutte entre un désir profond de faire le bien et d'un mal qu'il commet malgré tout. Donc il n'y a pas besoin qu'on lui interdise les choses. Il est attiré par le bien, mais après, ben, la chair, superficiellement, le conduit parfois à faire le mal. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut faire le bien. Il continue d'ailleurs, vouloir faire le bien et à m'apporter, mais non l'accomplir. Son problème, c'est pas choisir entre le bien et le mal, mais de ne pas se laisser entraîner par le mal. C'est pourquoi il conclut, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Faire ce qui est bien, c'est ce qui fait sa joie. Et la réponse, justement, en Romains 8, à ce combat, c'est la transformation par l'esprit, la marche par l'esprit. Alors peut-être que justement le problème chez les Corinthiens, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? Souvent, on conçoit la liberté justement de choisir de faire ce qu'on veut, avec la limite toujours de ne pas gêner les autres, etc. Liberté de choisir entre le bien et le mal. Est-ce que la liberté dans la Bible, c'est vraiment ça ? La liberté présentée comme ça, libre de choisir entre le bien et le mal, c'est, on la trouve dans la Genèse. Parce qu'il est dit, vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Cette définition de la liberté, c'est le mensonge de Satan. Et c'est un mensonge qui, en fait, nous a rendus esclaves. C'est quoi la définition biblique de la liberté? Quand la Bible définit la liberté, elle parle en général de la situation d'Israël en Égypte. À Pâques, le peuple juif est libéré de l'esclavage en Égypte. La liberté, c'est ce qui s'oppose à l'esclavage. Et Dieu utilise l'histoire d'Israël pour faire comprendre ce que c'est la liberté. La liberté de la Bible, ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux. La liberté, ce n'est plus être esclave. La liberté, c'est la liberté de faire le bien. Non pas choisir entre le bien et le mal, mais enfin pouvoir faire le bien. Dieu est réellement, complètement et parfaitement libre. Est-ce que Dieu commet le mal? Non. Y a-t-il quelqu'un de plus libre que Christ sur terre? Et pourtant, il est resté sans péché. La vraie liberté, c'est pouvoir ne plus faire le mal, mais pouvoir faire le bien. Le mal est toujours un esclavage et il s'oppose à l'idée de liberté. La colère, c'est sans doute le meilleur exemple, ou le ressentiment contre quelqu'un. Quand je suis en colère, est-ce que je suis encore libre? Ou est-ce que ma raison est prisonnière de ma colère, prisonnière de mon ressentiment? Dès que je pense à la personne concernée, j'ai une tension qui se crée en moi. Mon raisonnement est déformé, ma perception des choses est déformée. Je dis plus que je ne voudrais le faire, je fais des choses que je ne voudrais plus faire, je ne suis plus libre, je suis esclave. Et comme dit Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mal, c'est toujours un asservissement, c'est toujours une mise en esclavage. Même Satan, quelque part, après sa rébellion, est prisonnier de sa méchanceté, comme nous-mêmes sommes parfois prisonniers de la nôtre. Mais Pâques, pour Israël, c'est Dieu qui libère justement de l'esclavage. Et Pâques, pour nous, c'est Dieu en Jésus-Christ qui nous libère de l'esclavage du péché. Et alors nous sommes libres, libres de faire le bien, et nous vivons dans la grâce de Dieu. Nous profitons de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, et nous pouvons réellement vivre. Alors est-ce qu'on a besoin de revendiquer le droit de choisir? Est-ce qu'on ne préfère pas être esclave de Dieu, vivre dans le bien, être réellement libre? C'est dans la relation et la communion avec Dieu qu'on pourra marcher et être victorieux sur ce chemin. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, encore une fois, c'est bien l'Esprit qui œuvre en nous, là est la liberté. Liberté de pouvoir enfin faire le bien. Amen. Amen. On m'avait invité à prier. Je vous invite peut-être à prendre quelques instants de silence et après je vais prier. Merci Seigneur parce qu'en Christ, tu nous as réellement libérés. Merci parce que cette liberté, c'est enfin pouvoir faire le bien. Et tu veux réellement, par ton esprit, jour après jour, nous amener à plus de liberté. Aide-nous à lutter contre la tentation humaine, c'est vrai, de mettre des interdits qui nous amèneront après à avoir envie de désobéir, à avoir envie d'être attiré par le mal. Apprends-nous à vivre la joie, la liberté, à voir le bien que tu proposes, à être heureux de vivre le bien que tu nous offres. Aide-nous à regarder la société et à comprendre que parfois le bien qu'elle propose est un esclavage, une tromperie, et à comprendre pourquoi ce que toi tu proposes, c'est ce qui est réellement bon pour nous, Seigneur. Merci Père pour ton œuvre en Christ qui nous a libérés. Merci pour ton œuvre par l'Esprit en nous qui nous aide concrètement à vivre cette liberté. Que ton Esprit lui-même nous illumine, nous guide, nous aide à regarder à Jésus-Christ, à regarder à son modèle et à vivre comme lui, la liberté dans la relation avec toi, dans le plaisir de vivre sous ton regard, de vivre ton amour, de vivre en étant tes esclaves, ce qui veut dire être tes enfants aussi, ce qui veut dire être réellement libre. Amen. Amen.